France Culture. France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir, consacrée ce soir à Mayotte. Cette semaine, les députés ont adopté le projet de loi de refondation de Mayotte présenté par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Un texte très attendu, tant l'urgence se fait sentir dans le département le plus pauvre de France. 7 mois, presque jour pour jour, après le passage dévastateur du cyclone Chido, l'île est exsangue. Les bidonvilles se reconstruisent et l'eau manque toujours. Face à cette crise qui s'ajoute à une île déjà en crise, la réponse du gouvernement et de cette loi de la refondation a le mérite d'être claire. La reconstruction de Mayotte passerait en premier lieu par la lutte contre l'habitat illégal, l'insécurité et l'immigration irrégulière. Mais alors, la lutte contre l'immigration illégale est-elle véritablement un préalable à toute reconstruction à Mayotte? La loi de refondation répond-elle aux enjeux et aux attentes de ce département sinistré? Et quels autres chemins emprunter? Voilà quelques-unes des questions qui vont animer le débat de ce soir. Avec nous pour en parler, 3 invités. En studio d'abord, Sylvain Grisot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes urbaniste, enseignant, fondateur de l'agence Dixit qui fait du conseil et de la recherche en urbanisme. Vous avez publié « Réparer Mayotte, les chantiers de l'après-Chido » aux éditions Les Petits Papiers. C'était en mars dernier, et vous a fait plus récemment encore fait paraître un rapport « Mayotte, comment reconstruire ?» Également avec nous, mais à distance, Marjane Gaem, bonsoir. Marjane Gaem, je ne sais pas si vous nous entendez, en tout cas vous êtes avocate au barreau d'Avignon, anciennement au barreau de Mayotte, et vous travaillez principalement en droit des étrangers et de la nationalité. Enfin, Abdil Wahedou Soumaïla, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, capitale de l'île. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. Bienvenue sur France Culture.
Je voudrais remercier les députés qui, par ce vote, permettent à Mayotte de franchir une étape importante, un peu plus de 6 mois après le passage de Chido, et ce territoire pourra mieux affronter les fléaux qui, il est vrai, empêchent son développement, l'habitat illégal, l'insécurité ou l'immigration irrégulière. Cette loi concrétise surtout des promesses, parfois anciennes et jusqu'ici non tenues, concernant les infrastructures, la convergence sociale, l'accès à l'eau et aux soins.
Mayotte et notre démocratie méritent mieux. Le véritable problème ici, comme souvent, reste le diagnostic. On l'aura compris, pour une bonne partie de l'hémicycle, l'immigré serait l'unique responsable des maux de Mayotte. Je ne cherche pas la polémique. Oui, le comportement du gouvernement comorien est plus que difficile. Oui, l'explosion démographique à Mayotte pose de sérieux problèmes. La limiter passe notamment par la fin des séjours territorialisés, mesure que nous avons portée et soutenue, désormais repoussée à 2030.
Voilà les voix que vous aurez reconnues de Manuel Valls et de Dominique Voynet autour de ce texte de Mayotte qui, évidemment, suscite déjà des polémiques. Je me tourne d'abord vers vous, Abdel Wahedou Soumaïla. Je rappelle que vous êtes le maire de Mamoudzou. Est-ce que le texte de loi de refondation répond, selon vous, aux attentes des habitants de Mayotte et de votre ville?
Oui, dans votre reportage, c'est une étape. Une étape parmi d'autres. Est-ce que ça répond à la totalité des demandes des Mahoraises et des Mahorais? Sûrement pas. Maintenant, encore une fois, comme je le dis, c'est une étape supplémentaire. Et naturellement, il faudra d'autres étapes, même si ici, sur le territoire, nous aurons souhaité qu'il y ait une accélération sur tous les sujets, sur toutes les thématiques. Nous aurons souhaité que l'alignement des prestations sur le territoire le plus pauvre de France, touché par l'une des catastrophes les plus importantes de la nation, du moins sur, je dirais, catastrophe naturelle, on puisse tout de suite aligner sur ce qui se fait du droit commun, sur les prestations sociales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le SMIC, qui, on nous dit, il faut encore attendre des gens.
Mais
qui
le projet de loi prévoit d'aligner certaines prestations sociales de l'Hexagone avec Mayotte, mais à l'horizon 2031. Abdel Wahedou Soumaïla, je vous...
C'est comme tous les sujets à Mayotte, il faut toujours attendre. Vous savez, en 2014, quand on a fait le choix de mettre ce qu'on appelle les cadres vieilles, comme on les appelle, les impôts tout de suite et maintenant, on n'a pas regardé la situation sociale de Mayotte. Les devoirs, c'est tout de suite, mais les droits, il faut attendre. Malheureusement, c'est ce qui fait que les Mahorais, de plus en plus, ont cette méfiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des dirigeants que nous sommes, parce qu'on n'arrive pas à répondre à leurs attentes.
Et on va revenir sur cette ambivalence de la relation entre l'État et les Mahorais. Marjane Gaem, est-ce que, selon vous, le texte de loi de refondation répond aux attentes et aux besoins de l'île?
Alors, tout d'abord, l'intitulé de la loi est trompeur, puisqu'on parle de refondation dans un département français sous-doté et à bien des égards déconsidéré. Le cyclone Chido n'a fait que mettre en lumière les inégalités qui rongent ce territoire, que j'ai habité pendant plusieurs années. Et je rejoins effectivement Monsieur le maire de Mamoudzou, puisque quand il s'agit de devoirs, il y a toujours une application immédiate. Alors, dès lors qu'il s'agit d'égalité, l'égalité, elle attendra. Et elle attendra quoi? Elle attendra la résolution d'un soi-disant problème, problème qui serait lié à l'immigration et à un problème qui pourrait être résolu, donc il est demandé aux personnes d'attendre, alors que l'égalité doit faire partie des fondations de l'île.
Sylvain Grisot, sur cette loi de refondation, également, pour finir ce tour de table.
Bah écoutez, une loi, sans doute, c'est sans doute nécessaire, des textes. C'est un symbole aussi, une loi, et je pense que l'île a besoin de ces symboles-là, à un moment, un vote, une forme d'unanimité.
Il y avait déjà eu une première loi dans l'urgence.
Des lois, il y en a eu beaucoup, en fait.
Après le cyclone Chido.
C'est aussi mon propos, c'est que des lois, il y en a eu beaucoup, et il y en aura malheureusement d'autres. Il y a un budget attaché, ce qui n'est pas rien, mais je pense qu'on le verra et on pourra en discuter avec Monsieur le maire aussi, un budget qui est absolument pas en raccord avec l'impact du choc de Chido, mais surtout des enjeux de construction de l'île au-delà de la reconstruction. Et puis, il faut des actes et sur l'île, on les attend toujours. Donc, une loi, oui, bien sûr, mais c'est que le début. Et Monsieur le maire a raison. On attend, il y a une certaine patience de la population et aujourd'hui, les actes concrets manquent.
Monsieur le maire, 4 milliards d'euros, c'est ce que prévoit la loi. Est-ce que ça correspond à ce dont a besoin? Et qu'est-ce que veut dire cette somme? Sait-on déjà comment est-ce qu'elle va être orientée?
Voilà le vrai sujet en réalité. Est-ce que ces 4 milliards d'euros vont pouvoir être... en tout cas, comment on va les orienter? Quelle est l'orientation? S'il s'agit de faire comme on a toujours fait, parce que le vrai problème sur ce territoire, c'est que ce sont souvent... les bureaux parisiens qui décident de ce qu'on veut de ce que veulent ici et sur le territoire de Mayotte. On a tendance à ne pas écouter les élus de proximité que nous sommes. On a tendance à décider à la place des élus que nous sommes. Et c'est ça le vrai enjeu. Et c'est ce qui va se poser dans les jours à venir. Est-ce que les 4 milliards seront suffisants pour répondre à tous les enjeux qu'il y a sur ce territoire? Je dirais naturellement non. Maintenant, quelles sont les priorités et comment on définit les priorités? Comment on met en place? Sur quoi on commence? Tous ces sujets-là, si les milliards qui sont annoncés sont déployés comme ce qui a toujours été fait ici, parce que les plans, il y en a eu, il faut juste regarder l'historique. Il y a eu plein de milliards qui ont été annoncés, mais à jour, Chido, comme ça a été dit tout à l'heure, a démontré que finalement, rien n'a été fait. Donc, le déploiement, l'orientation de ces 4 milliards dépendra de la réussite ou non de cette loi de refondation.
Alors, dites-nous, Abdelwahedou Soumaïla, quelles sont, selon vous, les priorités pour Mayotte?
Je vais vous donner deux, trois exemples qui vont être très, très, très précis. Quand vous rentrez en centre-ville, quand les Mahorais ont décidé de venir en centre-ville à Mamoudzou, ils partent du nord ou du sud de Mamoudzou, de Mayotte plutôt. Ils arrivent ici, on a depuis une dizaine, trentaine, quarantaine d'années, toujours la même route nationale. La route nationale 1 qui converge vers Mamoudzou à partir du nord de Mayotte et la route nationale 2 qui converge vers Mamoudzou à partir du nord. Donc, pour parcourir 3 km, vous mettez 3 heures. Est-ce que vous pensez que c'est acceptable? Mais depuis toutes ces années, nous demandons à l'État d'investir sur ses propres routes nationales À ce jour, rien n'a été fait. 40 ans plus tard, les gens aujourd'hui, les véhicules de plus en plus, nous avons été obligés, la ville de Mamoudzou, de prendre un arrêté de circulation alterné pour fluidifier la circulation. Voilà où est-ce qu'on en est, parce que depuis toutes ces années, rien n'a été fait en termes d'investissement sur les routes, notamment les routes
nationales.
Donc
d'abord, investir, vous dites, dans les infrastructures.
Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que dans les 4 milliards d'euros annoncés, nous puissions investir sur les infrastructures à la fois routières. Je vais vous donner un autre exemple, parce que j'avais dit que j'en avais trois. Deuxième exemple, nous avons eu Chido. Chido a dévasté le territoire, mais pire, a coupé le territoire du monde. Vous étiez à Sada, une commune vers le centre ouest de Mayotte. Impossible de joindre quelqu'un qui est à côté, à quelques mètres à côté. Pourquoi? Parce que l'ensemble des réseaux de télécommunications, l'ensemble des réseaux d'éclairage public sont des réseaux aériens. Chido est passé, tous les fils se sont retrouvés par terre. Donc, impossible de joindre quelqu'un. Ça, est-ce que les 4 milliards vont porter sur la mise aux normes de l'ensemble des réseaux et surtout l'enfouissement de l'ensemble de ces réseaux, tant télécommunicationnels que sur l'éclairage, est-ce que les 4 milliards vont porter sur ces sujets existentiels, hein, existentiels? Je ne sais pas. On n'a pas encore les orientations. C'est des sujets qui sont importants comme ça, dont les efforts doivent porter sur... Et puis, pour finir en termes d'exemple, le désenclavement.
Troisième exemple, le désenclavement.
Troisième exemple, c'est le désenclavement, à la fois maritime et à la fois aérien. Depuis des années, on a promis à Mayotte qu'on aura l'aéroport. Et surtout, cette piste longue qui permettrait à la fois aux Parisiens, là peut-être que vous êtes, de venir à Mayotte à moindre coût, et aussi aux Mahorais de pouvoir voyager, aller partout, donc créer de la concurrence entre les compagnies aériennes. Aujourd'hui, on attend toujours 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, on nous parle toujours de cette piste longue qu'on ne voit toujours pas. Voilà, c'est quelques exemples très précis où si on mettait les moyens de désenclavement de territoire, je pense qu'on n'en aurait pas été là aujourd'hui.
Je vois Sylvain Grisot en studio qui hoche de la tête à chacun des exemples que vous avez mentionnés, Abdelwahed Ousmaïla.
Oui, ça me semble pour le coup très concret et très illustratif aussi du sujet. Là, on parle de Mayotte parce qu'on a une loi. On a une loi parce qu'il y a eu Chido, parce qu'il y a eu un choc, une prise de conscience. Alors, on en parle ce soir entre nous, hein. On est quelques-uns autour du poste, mais Mayotte est aussi sortie de l'actualité. La question des routes, de l'engorgement.
Il y a aussi cet élément, on a l'impression qu'on ne parle de Mayotte que lorsqu'il y a, au gré des crises, que Mayotte est un objet de discours sur la crise. Est-ce que là, dans la refondation, il faudrait aussi penser une politique qui sorte de la politique de la crise, Sylvain Grisot?
C'est peut-être ça le sujet. Enfin, la question des routes illustre non pas l'impact du choc de Chido, mais illustre un retard de développement par rapport à une île qui connaît une croissance extrêmement importante. C'est pas simplement le département qui connaît la croissance la plus rapide de France, c'est un des territoires qui connaît dans le monde, aujourd'hui, une des croissances les plus rapides. On est entre 4 et 5% de croissance, c'est juste un chiffre comme ça. Oui, et ça veut dire un doublement de la population tous les 20 ans. Donc c'est absolument énorme et on n'arrive pas, l'État français, nous n'arrivons pas collectivement à suivre le rythme sur les équipements publics, les infrastructures.
Sur les écoles, il y a un enfant sur deux à Mayotte qui n'est pas scolarisé.
Oui, ça fait...
Et ça, c'était avant Chido.
Ça fait 900 salles de classe qui manquaient avant Chido. Sur la route, on en a parlé. Sur l'eau, bien sûr. L'eau, c'est à la fois un impact du réchauffement climatique, un enjeu lié à la croissance de la population, mais aussi et surtout un point sur lequel je voudrais insister. Sur l'incapacité du territoire, l'incapacité collective à avancer. Les infrastructures aéroportuaires, comme Monsieur le maire en a parlé, sont prévues depuis longtemps. Et on voit bien que, d'ores et déjà, il y a un débat entre l'État et les collectivités locales et les élus locaux qui est loin d'être un débat sain, adulte, apaisé. Il faut trouver des voies pour avancer et pour faire. Et la question, non pas de l'attribution de budget, mais de leur consommation, hein, se pose aussi. Aujourd'hui, Mayotte est un territoire sur lequel on a des budgets non consommés sur toute une série d'opérations. Donc la question, c'est aussi l'opérationnalité de ces budgets-là. Comment est-ce qu'on fait les choix, mais on fait réellement ?
Marjane Gaëm, je crois que vous vous êtes reconnectée avec nous à France Culture et que vous souhaitez réagir.
Oui, tout à fait, merci. Alors déjà, peut-être rappeler que l'article 1 bis AA rappelle les différents investissements prioritaires dans les infrastructures. Donc le projet de loi détaille, il est question de la fibre optique, du déploiement de la fibre optique, de la piste longue. Alors
de
à voir ensuite comment ça pourra, voilà, de la piste longue, de l'aéroport, à voir comment ce sera mis en place ou non. Mais vraiment, ces budgets sont cette fois-ci définis et le soutien de l'État, il est rappelé. Mais ce qui, je pense, était la question initiale, que la question migratoire, elle doit précéder la refondation Mayotte.
Et en tout cas, c'est ce qu'on entendait dans les mots d'Emmanuel Valls. Et on se souvient qu'en janvier, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, avait publié une tribune commune dans Le Figaro disant que sans fermeté migratoire, nous reconstruirions Mayotte sur du sable. Est-ce que vous partagez cette analyse, Marjane Gaëm ?
Évidemment que non. Et d'ailleurs, ça ressort du projet de loi, puisque le titre 2, c'est lutter contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal. Si l'on veut sortir Mayotte de ce problème soi-disant migratoire, il faudrait déjà commencer par permettre aux personnes titulaires d'un titre de séjour de circuler librement sur l'ensemble du territoire français, au lieu de les enfermer dans un département qui parfois n'a rien à leur offrir, ou tout simplement parce qu'elles ont leurs proches, les membres de leur famille, français ou non, installés dans d'autres départements, et notamment dans l'Hexagone. Il y aurait aussi une autre solution qui serait de supprimer le visa baladure et rétablir la libre circulation au sein de l'archipel. Cette solution, elle permettrait notamment aux personnes qui ont des suivis de traitement, et moi j'en ai dans ma clientèle, qui viennent à Mayotte pour bénéficier de soins. Je pense ici à une pharmacienne originaire d'Anjouan en 2018 que j'avais rencontrée, qui vivait dans un état de dénuement dans un bidonville à Mayotte, tout ça pour essayer de bénéficier de soins à son enfant. Ses soins étaient indisponibles aux Comores et elle me disait que si elle avait eu la possibilité, cette dame, de simplement venir et repartir deux fois dans l'année, elle serait restée à Anjouan. Et elle ne serait pas venue vivre dans un bidonville à Mayotte. D'autres pourraient travailler, aider à reconstruire, peut-être participer à tout un tas d'activités, en tout cas à Mayotte, et retourneraient vivre aux Comores. Et ensuite, un troisième point, c'est permettre aux personnes éligibles à un titre de séjour ou à la nationalité française d'accéder à leurs droits. Parce qu'en réalité, Mayotte est une terre de non-droits. Et pas de droits dérogatoires, de non-droits. Personnes éligibles à un titre de séjour ou à la nationalité française sont tous les jours éloignées. Le 10 juin dernier, je ne dis-nous ça.
Pardonnez-nous, Marjane Gaëm, on vous entend malheureusement très mal. Peut-être on va essayer de rétablir une ligne plus sûre que celle avec laquelle nous sommes connectés avec vous. Et évidemment, je vous redonnerai la parole. Abdelwahedou Soumaïla, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que nous raconte Marjane Gaëm d'une situation de non-droit à Mayotte et de ce qu'elle pointe comme une forme d'absurdité, de voir dans la question migratoire un préalable à la reconstruction, à la refondation mahoraise. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans les exemples que vous nous avez donnés, Abdelwahedou Soumaïla, que ce soit la route, les infrastructures électriques ou le désenclavement de l'île, vous n'avez pas parlé d'immigration.
Ben, parce que vous ne m'avez pas posé la question, donc c'est normal que je n'en parle pas. Alors, il y a un certain nombre de points dont l'interlocutrice a parlé. Naturellement, je les partage. Quand elle dit que régulariser des personnes et les cantonner sur un territoire sans perspective, naturellement, c'est une aberration. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les Mahorais disent qu'il faut abolir ce visa territorialisé, ce titre de séjour territorialisé.
Oui, il faut préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire que les personnes étrangères vivant à Mayotte avec un visa n'ont pas le droit de se rendre dans d'autres départements de France. Juste pour préciser pour les auditrices et auditeurs.
Exactement, donc c'est une aberration. Maintenant, ça a été acté par les débats parlementaires. Nous espérons que la CMP qui aura lieu dans quelques jours permettra définitivement de régler, en tout cas de mettre fin à cette aberration. Ça, c'est normal. Par contre, le sujet même de l'immigration. Moi, je pense que quand on vit ici à Mayotte Et c'est ce que nous avons toujours demandé à nos compatriotes, notamment qui sont de métropole, de parler de ce sujet à la fois sans passion et sans dogmatisme. Je vais vous donner deux, trois chiffres pour illustrer, en tout cas pour ce qui concerne Mamoudzou, le poids de l'immigration sur le territoire. Sur les 18 000 résidences principales à Mamoudzou, 47%, ça c'est les chiffres INSEE 2017, donc ils sont vérifiables, 47% de ces résidences, ce sont des résidences en tôle, donc des bangas. Est-ce que ça, c'est acceptable sur un territoire? Je ne pense pas. Je vais vous donner un autre chiffre qui illustre franchement le poids et la problématique.
Mais le chiffre que vous donnez est illustratif du mauvais habitat, de la mauvaise qualité de l'habitat. Est-ce que c'est, sait-on si ces bangas sont habités?
Bidonvilles.
Oui, mais c'est sait-on. Bidonvilles, mais qui habite dans ces bidonvilles, Abdil Wahed Soumaïla?
Un tiers des habitants des habitats précaires sont français. Donc ça n'invalide pas du tout votre propos, Monsieur le Maire. Par contre,
je suis pas d'accord avec vous.
Finissez Abdi Wahed Soumaïla et puis Sylvain Grisot, je vous donnerai la parole juste après.
C'est moi qui vis à Mayotte. C'est moi qui suis maire de Mamoudzou. Donc je connais les sujets les mieux. En tout cas, dans ma commune,
bien sûr,
que vous qui êtes à métropole.
Allez-y, je vous en prie, Abdil Wahed Soumaïla, pardonnez cette interruption.
Donc il y a aucun, mais je le dis et je le répète, il n'y a aucun Maoré qui vit dans une bidonville. Maintenant, si vous me dites que des gens qui ont eu des titres de séjour, qui ont été par la suite naturalisés, vivent dans les bangas, oui, ça oui. Donc après, on pourra dire, parce qu'ils sont naturalisés, donc ils sont français, mais avant tout, il faut le dire et le répéter, encore une fois, sans passion, sans dogmatisme, que les gens qui vivent dans les bidonvilles, ce sont des étrangers arrivés sur le territoire en situation irrégulière, par la suite qui se font régulariser par ces fameux titres de séjour territorialisés, et par la suite, parce qu'ils font des enfants, par la suite, ils se font naturaliser. C'est ce que vous appelez les Français. Donc, c'est pourquoi il faut relativiser quand vous dites que ce sont des Français, mais il faut rappeler l'origine de tout cela. Donc, est-ce que la question que nous nous posons tous ici, est-ce que c'est acceptable dans un territoire donné, dans une commune en l'occurrence donnée ici, que la moitié des résidences soient des bidonvilles? Je pense que nulle part ailleurs, on accepterait cette situation.
Je vous propose, exemple, monsieur...
Qui est très simple.
Allez-y, rapidement.
Donnez un autre exemple, rapidement. Il y a une association à Mayotte qui s'appelle les Naturalistes de Mayotte. Ils ont fait une étude qui estime que 150 hectares de forêt disparaissent chaque année parce qu'il y a défrichement pour installer des bidonvilles. Est-ce que vous pensez que sincèrement, que quand on parle de problématique de l'eau, c'est pas lié à ça?
Alors, quand je vous propose qu'on revienne dans quelques minutes, Abdil Wahed Soumaïla, monsieur le maire, je vous propose qu'on revienne dans quelques minutes en détail sur la question de l'habitat précaire et des bidonvilles à Mayotte, notamment pour réfléchir aux différentes formes de reconstruction qu'elle pourrait prendre. Je voudrais d'abord faire réagir Marjane Gaëm, qui est également au téléphone, qui s'est reconnectée et qui insiste auprès de la régie pour prendre la parole.
Monsieur le maire, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de Français dans les bidonvilles. J'en ai assisté plusieurs et des Français, nés Français, de parents Français, sur le quartier Talu 2, qui a été si couvert médiatiquement, puisque la première opération dans le cadre de l'enfant a été démolie au mois de mai. La personne qui est décédée en venant détruire elle-même son banga parce qu'elle travaillait pour une... Ici, cette personne était française, et elle n'était pas française, comme vous le dites, parce qu'arrivée illégalement, elle était française de parents français, et elle vivait avec une personne comorienne titulaire d'un titre de séjour. Leurs enfants sont français. Un autre monsieur, répondant au prénom de Daoud, est français. Et je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Il y a toutes des personnes qui ont acquis la nationalité du sol, d'autres qui ont acquis la nationalité. Mais être français, c'est être français. La question n'est pas comment on est devenu français, tout d'abord. Mais il y a des Français, il y a des Mahorais, comme vous dites, qui habitent des bidonvilles. Et s'il y a autant de bidonvilles à Mayotte, s'il y a autant de quartiers informels, c'est parce que l'État n'a pas construit des logements à bas coût qui permettent à une population qui a des salaires extrêmement bas d'accéder à un logement. Aujourd'hui, accéder à un logement.
Pardonnez-moi, Marjane Guem, malheureusement, on n'arrive toujours pas à bien vous entendre. Sylvain Grisot, traduire, là on voit qu'on parle de problèmes publics complexes, d'infrastructures, d'électricité, d'acheminement de l'eau, d'habitat insalubre, de déforestation sauvage. Traduire des problèmes publics complexes en des problèmes simples d'immigration, est-ce que c'est ça la caractéristique de Mayotte? Est-ce que c'est justifié selon vous finalement que cette catastrophe naturelle de Chido est comme réponse aujourd'hui une réponse qui insiste sur la question migratoire?
En tout cas, la loi en témoigne. Ces articles qui associent l'habitat illégal et l'immigration irrégulière simplifient évidemment la réalité. Alors, moi, j'ai pas d'avis sur l'origine de la nationalité. Par contre, j'ai un avis très clair. Monsieur le maire citait les chiffres de l'INSEE. Les chiffres de l'INSEE nous disent qu'on a un tiers des habitants aujourd'hui dans les bangas qui sont français. Quand on a des enquêtes sociales qui sont réalisées dans les bidonvilles, on a une connaissance des bidonvilles qui sont souvent plus précises finalement que la population générale, parce qu'il y a des enquêtes sociales qui sont réalisées avant, en amont des opérations de résorption de l'habitat insalubre. Monsieur le maire en pilote. On a donc des chiffres qui nous disent des choses assez différentes à chaque fois, mais qui globalement, quand on vient moyenner les chiffres dont on dispose, on a à peu près un tiers de Français, un tiers d'étrangers en situation légale et un tiers d'étrangers en situation illégale. Ça veut dire en tout cas qu'on peut pas se dire que y a un signe égal entre bidonville et étrangers qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire de Mayotte.
France Culture.
Le cyclone qui a marqué tous les esprits et marquera longtemps les esprits. Peut-être que ça a disparu des médias nationaux.
Question du soir.
Mais à Mayotte, ça va rester un moment marquant.
Matteo Caranta.
Et je pense que derrière la catastrophe naturelle ou humaine, parce qu'il n'y a pas eu que des dégâts matériels, mais il y a une opportunité là à retrouver un peu de sens. Je souffle en même temps avec un petit soupir de désespoir. Mais j'aimerais bien que la politique annoncée soit, j'allais dire, bienveillante. En tout cas, qu'elle ait une forme d'acuité sur les forces mahoraises.
Vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir à la reconstruction de Mayotte en compagnie de Sylvain Grisot, urbaniste, Marjane Guem, avocate, et Abdil Wahedou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, et nous venons d'entendre un extrait du troisième épisode de la très belle série documentaire que je vous recommande de Raphaël Kraft pour LSD, diffusée sur France Culture, disponible évidemment sur l'application de Radio France, réalisée par David Jakubowiez. Abdil Wahedou Soumaïla, on entendait quelqu'un dire « espérons que cette crise permette de repartir dans le bon sens ». Comment est-ce que, par où ça passe selon vous, de reconstruire dans le bon sens? Par exemple, comment est-ce que vous gérez aujourd'hui, depuis 7 mois, depuis le passage du cyclone Chido, les déchets? Comment est-ce que vous appréhendez la reconstruction déjà en cours des bidonvilles, monsieur le maire?
Alors, avant de revenir à cette question, je voudrais dire aux deux interlocuteurs. Encore une fois, moi, je respecte leur point de vue. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Ce que je dis et je le redis et je l'assume totalement. Moi, ça fait plus de 40 ans. Je suis né, je vis ici. Je suis aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être le maire de Mamoudzou. Et je le dis et je le reconfirme. Il n'y a aucun Maoré qui habite dans un bidonville. Je le dis et je le confirme.
Pardonnez-moi, Abdil Wahedou Soumaïla, je pense qu'on a compris que les...
Je voulais juste l'affirmer.
Voilà.
Je voulais bien affirmer ça. Donc ça, c'est une position que j'ai...
Et je pense que les positions ont été très établies autour de cette table. Et si vous voulez bien qu'on avance un petit peu dans le débat, parce qu'on parle quand même de sujets qui sont très importants.
On va avancer.
Par où ça passe, selon vous, la reconstruction? Quel est le bon chemin à prendre désormais, en admettant que ces 4 milliards arrivent? Mais au-delà de ça, est-ce que ça passe... dites-nous, par où ça passe, la reconstruction, selon vous?
La reconstruction, il n'y aura jamais, mais écoutez-moi bien, jamais de jamais, une reconstruction sur ce territoire si les gens ne se sentent pas en sécurité. Le vrai sujet central pour la reconstruction de Mayotte passera par la sécurité. Il faut que la sécurité règne sur ce territoire, parce que on aura beau mettre 4 milliards pour refaire des écoles, pour refaire des hôpitaux, mais dans un hôpital, il faut un médecin. Il faut des gens pour administrer ces établissements. Mais qui viendrait peut-être de la métropole et d'ailleurs sur un territoire où règne l'insécurité? Qui viendrait enseigner nos enfants?
L'insécurité règne en ce moment depuis le passage du cyclone Chido. Alors, il y avait déjà beaucoup d'insécurité. Hein. Les chiffres de la délinquance sont élevés à Mayotte, mais cela s'est empiré depuis le passage de Chido, monsieur le maire.
Parce que beaucoup de gens qui ont tout perdu, aujourd'hui, tout est dévasté. Les gens sont dans la survie. Et naturellement, les violences, les gens aujourd'hui n'ont plus peur de rentrer dans les maisons comme ça, avec des machettes, menacer déjà à l'intérieur de leur domicile avec des machettes pour tout voler, à la fois nourriture et tout ce qui va. Aujourd'hui, la violence s'est multipliée par deux et c'était déjà très difficile avant parce que les gens sont dans la survie. Donc, encore une fois, le sujet central de la reconstruction, c'est d'abord sécuriser le territoire. Tant qu'on n'aura pas sécurisé le territoire, encore une fois, personne ne viendra investir sur un territoire où règne l'insécurité, personne ne viendra éduquer des enfants où règne l'insécurité, et voire même ceux qui sont là. Mais quel enfant aura une scolarité normale si il est terrorisé en permanence dans la tête parce qu'il y a des intrusions dans les écoles, parce que les bus se font caillasser? Voilà, c'est le sujet central.
Marjane Gaëm, vous êtes d'accord avec ça? On fait une dernière tentative de connexion avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, que c'est l'insécurité s'est accrue et que c'est un préalable?
Alors moi, ce que je partage comme avis, c'est que l'insécurité s'est accrue depuis la départementalisation.
2011. Hein,
en tout cas, moi oui. Je suis arrivée en 2011 et de 2011 à 2015, j'ai pas eu le même sentiment d'insécurité sur l'île qu'à partir de 2016. Et des épisodes assez violents où des collectifs de citoyens se sont mis à expulser des habitants sous l'œil presque complaisant des autorités qui ne sont pas intervenues. C'est suite à cela qu'on a assisté au premier coupeur de route. Et petit à petit, l'insécurité n'a fait que monter, n'a fait qu'augmenter. Et en fait, le projet de loi refondation, Mayotte, il porte en lui les germes en fait d'une violence d'État. Parce que je rappelle quand même que certaines dispositions mettent fin à la au caractère sacré du domicile, puisque le projet de loi autorise notamment des officiers de police à pouvoir pénétrer dans des habitats informels pour pouvoir atteindre d'autres habitats. Donc, c'est-à-dire pénétrer dans un domicile qui n'a rien à voir avec une infraction ou des faits, pour pouvoir soi-disant accéder dans un autre domicile.
Ces nouveaux outils juridiques pour lutter contre les bidonvilles sont effectivement une bonne part du projet de loi, Marjane Gaëm. Il y avait déjà eu l'opération Wambushu contre l'habitat illégal en fin avril 2023, lancée en grande pompe par celui qui était alors ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce qu'on a déjà un bilan de ces opérations? Est-ce que nous avons tiré des leçons de ces opérations, Marjane Gaëm? Et puis Sylvain Grisot.
En réalité, l'opération Wambushu, c'est tous les jours à Mayotte. L'opération Wambushu, ça a été un coup de com', un coup d'éclairage, avec un peu plus de policiers et effectivement plus de gendarmes qui sur le territoire, et donc plus de visibilité avec plus de médias qui se sont intéressés à Mayotte. Mais des interpellations, il y en a toujours autant, et des démolitions de quartiers, c'est depuis octobre 2020 que le préfet évacue des quartiers entiers en application d'un dispositif dérogatoire qui va être renforcé dans le projet de loi.
Et les pouvoirs du préfet vont également être renforcés, oui.
C'est ça, les pouvoirs du préfet vont être renforcés. Et donc, ça va être faciliter les évacuations sans aucune proposition de relogement. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'on va chasser des gens de chez eux sans aucune solution. Et je voudrais bien savoir comment monsieur le maire croit que cela ne va pas générer de la violence auprès de ces jeunes, auprès de ces personnes qui vont se faire maltraiter. Donc tout ça va forcément augmenter l'insécurité, en tout cas ce sentiment d'insécurité sur l'île. Le pacte social aujourd'hui, encore une fois, appelle de l'égalité, appelle des mesures en faveur de Mayotte, appelle une pacification. Des fondations ne peuvent pas être aussi, des fondations d'un territoire ne peuvent pas être basées sur des principes tels que la discrimination ou les inégalités comme cela ressort du projet de loi en réalité.
Il y avait aussi la machine qui sont venues dans les quartiers.
La machine, le c'est les bulldozers.
Ouais.
Et alors après, comment ça se passe puisque vous n'avez plus de maison? Où est-ce que vous allez?
On a fait 3 mois pour dormir dehors.
Pourquoi les habitants de Sogea qui ont été décasés sont venus s'installer ici spécifiquement?
On n'avait pas d'endroit où aller.
On a d'accueil ici, il n'y a pas de maison. Du coup, dès qu'on est venu ici, il y avait des chiens, des serpents, il y avait beaucoup des animaux qui... Je ne sais pas comment on dit, mais...
Des animaux sauvages et...
Si, ouais. Si. Ouais. On s'est débarrassé et puis on s'est installé.
Qu'est-ce qui rend la vie difficile ici?
C'est à cause de l'eau, c'est à cause de l'eau.
Parce qu'il faut aller la chercher.
Il faut aller la chercher très loin. Et nous, on habite dans les hauteurs. C'est difficile pour nous. Mais il faut l'accepter parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour y aller. C'est pour ça.
Voilà un autre extrait de Mayotte, dernier des départements, Raphaël Kraft, diffusé sur LSD, réalisé par David Jacoboviez. Sylvain Grisot, je le rappelle, vous êtes urbaniste. On entendait là des témoignages de personnes qui avaient perdu leur logement dans le bidonville, qui s'étaient eux-mêmes déplacés, qui se retrouvaient qui étaient passés d'une situation précaire à une autre situation précaire. Quels sont les chemins? Vous, je rappelle, vous avez publié un rapport en juin dernier, Comment reconstruire Mayotte. Comment est-ce que on doit penser maintenant avec l'existant, peut-être, la reconstruction de ces bidonvilles pour qu'ils ne redeviennent pas les bidonvilles qu'ils ont été avant le passage du...
Oui, et Marjane Gaëm rappelait que c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau et c'est continu. J'ai vécu moi-même des décasages il y a une vingtaine d'années à Mayotte, hein, donc c'est pas du tout... Et depuis, ça empire, et la violence est un symptôme, hein, d'une dégradation de crise en crise des conditions d'habitabilité de l'île. La violence, c'est lié à l'économie de la survie, c'est aussi au manque de futur, hein, qu'on donne, notamment à la seule richesse de l'île, hein, qui est aujourd'hui sa jeunesse. Hein, sa jeunesse qui manque de futur, qui manque d'avenir, qui manque de boulot. Et donc on est en train de dire que
un salarié sur deux serait sans emploi depuis...
Oui, un salarié sur deux, mais il y a fort peu de salariés, si vous voulez. On ne parle pas tellement en taux de chômage, mais en taux d'emploi à Mayotte, parce que on est plutôt inversé. Et aujourd'hui, l'inoccupation de la jeunesse, hein, avec ou sans papier, est un facteur déterminant aussi de ces violences du quotidien. On a d'un côté une île qu'il faut construire et reconstruire, rattraper les retards de développement, offrir du logement partout, à tout le monde, y compris aux 100, 150 000 habitants qui aujourd'hui vivent dans les bidonvilles, parce que tout le monde, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en dise, ne quittera pas l'île, français ou pas français, construire des équipements, construire des infrastructures, etc., etc. On a là une occasion...
Refaire de la tôle, refaire du béton, changer les matériaux, par où ça passe?
Déjà se mobiliser, hein. On a une occasion de mobilisation. Ça passe par toute une chaîne de production qu'il faut remettre en place. Hein, Vincent Liétard, qu'on entendait tout à l'heure, hein, dans l'interview, est un des acteurs de la première phase de développement de l'île, à peu près 1980 à 2000. Une phase de développement, c'est plus la même, c'est plus les mêmes enjeux. Mais
on a su faire, c'est ça?
On a su se mobiliser, inventer des modes constructifs, former des gens, mobiliser des entreprises et lancer une chaîne de production de logements, d'équipements publics et d'infrastructures. Hein, jusqu'à 2000, ça a fonctionné. Tout ça s'est effondré, on a du mal à suivre, il ne faut pas refaire cette histoire-là, mais se souvenir qu'à Mayotte, on a réussi à construire des logements en dur pour les habitants. À Mayotte, on a réussi à construire des infrastructures qui n'existaient absolument pas. À Mayotte, on a réussi à se donner de l'emploi. À Mayotte, on a réussi à générer une économie endogène, hein, qui distribue non pas des dividendes à des boîtes parisiennes, mais des emplois et des salaires à des gens qui habitent sur place. L'enjeu, c'est celui-là. Il y a un enjeu de construction et de reconstruction, qui est un enjeu de démarrage absolument massif, notamment de la production de logements. On produit bon an mal an 500 logements publics parapublics, disons par la fabrique organisée de la ville par an. Il en faudrait sans doute 10 fois plus. Hein. Mais au milieu des années 90, on produisait plus de 1000 logements sociaux à Mayotte tous les ans. Donc ça a été possible.
Amdil Wahedou Soumaïla, peut-être on se dirige vers une conclusion optimiste. Il y a les forces vives à Mayotte pour reconstruire cette île?
Alors d'abord, 2-3 éléments, parce que encore une fois, je ne peux pas laisser un certain nombre de choses se dire. En tant qu'élu de ce territoire, encore qui a vécu et qui vit ici, il y a des choses qui sont complètement erronées. D'abord, il ne faut pas lier l'insécurité à la départementalisation. Ça, c'est un raccourci que madame a voulu faire. Le vrai sujet, en réalité, et je serais peut-être d'accord à moitié avec elle, il y a eu une anomalie républicaine qui est arrivée en 2012. C'est l'avènement de François Hollande à la tête de la nation. Ça, ça a beaucoup, beaucoup coûté sur ce territoire. Parce qu'en réalité,
s'il vous plaît, on a réussi presque et on a réussi à éviter tout au long de cette émission de parler de politique dans ce sens-là.
Ça c'est politique, c'est politique, c'est une réalité. Donc, si vous me permettez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement.
Vous en prie.
Avant 2011, on vivait, on était, tout se passait bien, il n'y avait pas d'insécurité sur le territoire. Et là, elle l'a dit, elle l'a rappelé, elle a raison, parce que le territoire était, sur le plan de la sécurité, était ténu. C'est ça la différence. Deuxième élément, c'est très drôle quand on dit qu'il faut multiplier par 10, par 100 le nombre de logements, mais sur un petit territoire, je vous le dis, 374 km², 60% du territoire de Mayotte est classé en aléafort. Mais si vous voulez multiplier par 10, par 20 le nombre de logements, mais vous les construisez où ? Dans le lagon ?
Non, produit par an,
il faut quand même qu'on,
c'est la production par an, je n'ai pas dit par rapport au stock existant.
Il faut qu'on réfléchisse à l'idée d'avoir 10 000 naissances par an en plus de 30 000, 40 000 personnes qui rentrent irrégulièrement sur le territoire, mais on ne pourra pas tenir, encore une fois, l'enjeu de la sécurité, l'enjeu de la lutte contre l'immigration illégale. Si on ne règle pas ces deux sujets,
alors peut-être
on ne réglera pas, on n'aménagera pas le territoire. On peut tourner les sujets dans tous les sens, mais il y a des préalables qu'il faut faire. Et encore une fois, c'est ces préalables-là, tant qu'ils ne seront pas faits, tant que ces préalables ne seront pas réglés, on ne pourra pas construire ce territoire.
Sylvain Grise, vous souhaitez réagir, mais par rapport à Abdelwahedou Soumaïla, il n'y a pas, pour répondre à ma question, est-ce que Mayotte a les savoir-faire, est-ce que Mayotte a les capacités aujourd'hui de se reconstruire au-delà de ces préalables et des désaccords qui, je pense, ont été soulignés et établis tout au long de notre conversation ?
Naturellement, nous sommes dans un pays, un grand pays qui est la France, la sixième puissance mondiale. Si les compétences ne sont pas sur le territoire de Mayotte, forcément on ira les chercher à La Réunion, on ira les chercher ailleurs pour compléter ce qui manquerait sur le territoire. Donc oui, nous pouvons et nous avons les moyens de reconstruire le territoire, mais encore une fois, il faut lever les préalables et avoir un vrai engagement pour développer Mayotte. Et c'est tout ce que nous souhaitons.
Sylvain Grisot.
Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de solution, et j'y mets énormément de guillemets, à la question de l'immigration clandestine dans les deux ou trois prochaines années, quels que soient nos accords ou nos désaccords. Ce qui est certain, c'est que la question de la reconstruction, elle doit être menée maintenant. Et les ressources sont là, la capacité à faire est là, il y a des compétences, mais il faut parler d'un vrai projet de futur qui est au-delà simplement de se couper du monde.
Eh bien, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous trois. Sylvain Grisot, je rappelle, vous êtes urbaniste, enseignant, vous avez publié récemment « Réparer Mayotte, les chantiers de l'après-Chido ». Marjane Gaem, avocate au barreau d'Avignon, désormais anciennement au barreau de Mayotte. Et Abdelwahedou Soumaïla, merci d'avoir été avec nous sur France Culture, maire de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte. On le sait bien, l'émission de ce soir a été préparée par Théa Corlaire, Aloïs Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe, Pascaline Bonnet, Paul Weinarchter, Maud Yaïch, Ali Chavaran, Vivian Lecuivre à la réalisation et Élise Le à la technique. Quant à nous, on se retrouve le 14 juillet pour une émission consacrée au défilé militaire. La France est-elle une exception démocratique ? En attendant, vous aurez rendez-vous toute la semaine à 18h15 avec l'amie Caroline Brouet qui animera les rencontres de Pétrarque qui se tiennent comme chaque année en direct et en public depuis Montpellier, avec cette année un thème qui nous est cher à France Culture, apprendre, réapprendre à se parler. D'ici là, bonne soirée sur France Culture.